Le 13 février 2003, Anil Chauhan, 46 ans, homme d'affaires prospère à Hounslow, près de Londres en Angleterre, se volatilise après un mystérieux rendez-vous à Stonehenge. Deux jours plus tard, sa femme, ses deux jeunes fils et sa belle-mère disparaissent à leur tour.
L'affaire Chauhan est vraiment incroyable, glaçante, sauvage et choquante. J'ai couvert peu d'affaires de ce genre dans ma vie.
Les tueurs sont Kenneth Regan, un criminel professionnel de 54 ans, et son associé de longue date, William Hornsey. Peter Rees, 38 ans, un criminel à la petite semaine, est également recruté pour aider les deux comploteurs. Regan veut prendre le contrôle de l'entreprise d'Anil par tous les moyens.
Il n'avait ni acheteur légitime ni argent pour acheter la société. Donc Anil devait disparaître pour qu'il s'en empare.
Regan bluffe tout au long de l'enquête, donne de fausses informations à la police et fuit le pays après la découverte du corps d'Anil.
Plusieurs générations d'une même famille ont été méthodiquement anéanties. Le préjudice causé par ces criminels est vraiment considérable.
Froid et calculateur, Regan et Hornsey éliminent méticuleusement les membres de trois générations de la famille Chauhan, dont deux jeunes enfants, dans le seul but de s'enrichir rapidement. Cela fait d'eux deux des pires criminels au monde. Le 1er juillet 2005, l'un des plus longs procès pour meurtre du Royaume-Uni s'achève de manière dramatique à l'Old Bailey à Londres. Paul Cheston, qui est alors chroniqueur judiciaire, suit le procès depuis le début.
Ils étaient accusés, non pas d'un, mais de cinq meurtres. Une famille entière, en 23 ans d'expérience dans les tribunaux, je n'ai jamais rien vu de tel.
La froide brutalité de ces crimes impitoyables choque les enquêteurs chargés de l'affaire. Andy Baker est alors commandant et chef de la brigade criminelle de la Metropolitan Police de Londres, lorsque la famille est portée disparue.
On se dit qu'il leur est peut-être arrivé quelque chose. On espère les retrouver tous vivants, qu'ils sont peut-être juste partis un moment. Ça n'était malheureusement pas le cas.
L'enquête attire l'attention du pays tout entier. Mais la condamnation n'est pas facile à obtenir. David Little est le responsable de l'enquête lorsque l'affaire passe devant les tribunaux.
C'était une affaire très compliquée, rendue encore plus compliquée par les agissements de Regan dès le début. Il a semé des mensonges tout au long de l'enquête, ce qui n'est pas inhabituel venant de lui. Mais il a été très précis et il a fait ça très bien.
L'histoire des tueurs commence en 1948. À Ealing, dans l'ouest de Londres. Kenneth Regan naît Kenneth Avery.
Dès son plus jeune âge, c'était un voyou. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'était pas particulièrement grand, mais il était large et il avait les épaules larges. Et il fixait les gens d'un regard intimidant.
À l'âge adulte, Kenneth Avery se sert de son regard intimidant à des fins dangereuses et lucratives.
Kenneth est décrit comme un criminel chevronné. Il compte parmi les criminels les plus brutaux et les plus haut placés de tout le Royaume-Uni.
Il avait reçu le surnom de Captain Cash parce qu'il était très impliqué dans la drogue à l'époque et qu'il brassait beaucoup d'argent.
Il se voyait vraiment comme un entrepreneur criminel. Il transportait beaucoup d'argent dans sa voiture. Il estimait qu'il avait le droit à un style de vie vraiment somptueux, sans avoir à effectuer le dur labeur légitime que cela implique.
Il trempait également dans une autre combine, un trafic de passeports britanniques, avec un certain William Hornsey.
Né à Windsor en 1952, William Hornsey est de 5 ans le cadet d'Avery. Mais il n'en est pas moins dangereux.
William était aussi un criminel chevronné, mais il ne boxait pas dans la même catégorie. Il était plutôt du genre criminel artisanal.
William Hornsey avait une couverture tout à fait légitime. Il était comptable diplômé, ce qui lui donnait un vernis de respectabilité, mais il était étroitement impliqué dans l'escroquerie au passeport. Il donnait 50 livres à des sans-abri afin d'utiliser leur état civil pour des demandes de passeport. Donc il faisait partie intégrante de ce trafic.
Malgré sa couverture respectable, Hornsey a rapidement des ennuis avec la justice. En 1998, la vaste affaire criminelle qu'Avery et Hornsey ont montée s'effondre.
Toute l'intrigue tourne autour de l'arrestation d'Avery en possession de 25 kilos d'héroïne. Ils étaient dans le coffre de sa voiture quand il a été arrêté par la police, ainsi que des centaines de milliers de livres en liquide. Il risquait 20 ans de prison.
Cherchant à tout prix à échapper à une longue peine de prison, Captain Cash tente de conclure un accord avec la police.
Après son arrestation, il est devenu ce qu'on appelle un super grâce, un super indic, et il a fourni aux autorités de nombreuses informations sur des activités criminelles. Ce n'était pas par sens moral, il cherchait uniquement à servir ses propres intérêts.
Il décide de limiter les dégâts et de fournir à la police toute une série d'informations sur les principaux trafics de drogue. Il fournit des preuves, des noms et des informations aux autorités, y compris, curieusement, sur son ami Hornsey.
En juin 1998, après avoir dénoncé l'un de ses plus proches associés, Avery attend de connaître son sort.
Quand il est passé devant les tribunaux, au lieu de recevoir une peine de 20 ans, il a écopé d'une peine de 8 ans. Et en fait, il a purgé moins de la moitié, grâce à son rôle d'informateur.
William Hornsey est également condamné à une peine de 21 mois pour son rôle dans le trafic de passeports. Kenneth Avery bénéficie d'une libération anticipée en juin 2002, malgré la gravité de ses crimes.
Et donc cet homme n'a fait que 4 ans de prison. Puis il va vivre avec son père, dans un petit bungalow, près de Salisbury. Et il veut retrouver sa place. Il est déterminé à redevenir Captain Cash.
Il a décidé de changer son nom, d'Avery en Reagan. Son nom de naissance était Kenneth Avery, et le nom de jeune fille de sa mère était Reagan. Il a changé de nom parce qu'il voulait manifestement se réinventer et se défaire de son passé.
Avec sa nouvelle identité, Reagan commence à planifier sa réascension au pouvoir.
Kenneth Reagan, comme il s'appelait désormais, a trouvé un emploi de chauffeur poids lourd. Il transportait des palettes et des fruits à Ciba.
Ciba Freight était une très grosse société d'import-export opérant dans l'ouest de Londres. Elle réalisait apparemment 4 millions de livres de chiffre d'affaires par an. Donc, c'était une entreprise qui pesait plusieurs millions, construite au fil des années.
Ciba Freight appartient à Amanjit Chauhan, 46 ans. Ses proches l'appellent Anil.
Anil Chauhan était un homme d'affaires très prospère de l'ouest de Londres. Il était propriétaire de Ciba Freight, il avait également d'autres affaires dans le monde entier et il possédait des propriétés en Inde.
Mais derrière ses apparences, Anil Chauhan était un peu filou. C'était un opportuniste, pour rester courtois, et un criminel à la petite semaine, pour être plus direct.
Il avait des antécédents d'évasion fiscale. Et c'est exactement sur ce genre de choses que les criminels comme Reagan jouent, parce que ça entache la respectabilité d'une personne. Ça l'a énormément aidé à créer une image d'Anil, une image totalement fausse. Il a pu le dépeindre comme un type louche.
Malgré son passé, Anil est un homme d'affaires prospère et respecté. C'est aussi un père dévoué et un mari aimant.
Anil a épousé Nancy et ils avaient une vie de famille agréable. Ils avaient deux jeunes enfants, Ravinder, âgé de 3 ou 4 mois, et Devinder, âgé de 18 mois.
On sait que la grand-mère a pris l'avion pour être avec sa fille et ses petits-enfants. Anil et Nancy se parlaient au téléphone plus d'une fois par jour, toujours en Punjabi. Nancy parlait aussi quotidiennement à son frère Onkar, qui vivait en Nouvelle-Zélande. Ils étaient tous vraiment très proches.
Alors qu'il travaille à Ciba, Kenneth Reagan, 54 ans, super indique et trafiquant de drogue avéré, commence à s'infiltrer dans le cercle restreint des relations de confiance d'Anil.
Reagan a réussi à gagner la confiance d'Anil Chauhan d'une manière ou d'une autre. Peut-être grâce à la façon dont il se présentait et grâce aux contacts qu'il prétendait avoir.
Alors qu'il travaille à Siba, Reagan contacte son ancien associé, William Hornsey.
Hornsey est resté ami de Reagan, même si Reagan l'avait dénoncé à la police. Les liens criminels sont parfois plus forts qu'on ne l'imagine. Et donc, il est allé voir son ami Hornsey et lui a expliqué son plan et lui a proposé de se joindre à lui. Siba Freight était parfaitement situé, parce que l'entreprise était très proche d'Isro. Il savait que Chauhan envisageait de vendre. Le plan s'est étalé sur plusieurs mois. Reagan a réfléchi à la manière dont il allait s'emparer de l'entreprise. Il n'allait pas l'acheter, il allait s'en emparer.
En février 2003, Reagan met son plan à exécution et avec l'aide de Hornsey, lance son offre publique d'achat.
Il a dit à Anil qu'il avait un acheteur qui allait racheter la société. Je pense qu'Anil lui faisait confiance et s'est dit qu'il serait un bon intermédiaire pour vendre la société.
Reagan lui a dit qu'il avait peut-être trouvé un homme aux Pays-Bas qui aimerait acheter son entreprise. Un acheteur néerlandais, qui s'est avéré être Peter Rees.
Loin d'être un honnête homme d'affaires hollandais, Peter Rees était un criminel à la petite semaine de 38 ans, un associé d'Hornsey.
Rees était parfois vendeur de voitures, parfois couvreur, parfois autre chose, parfois ingénieur, etc., etc. Il baignait dans la petite criminalité. Il avait un long casier, mais ce n'était que de la petite délinquance. Cependant, il était enthousiaste et naïf.
Les principaux acteurs étant en place, Reagan entreprend d'attirer Anil dans un piège.
Le 13 février, Reagan a demandé à Anil de venir à un rendez-vous à Stonehenge pour rencontrer les personnes qui devaient prétendument acheter l'entreprise. Donc il s'y est rendu, prêt à discuter de la vente de son entreprise. Et c'est la dernière fois qu'Anil a été vu vivant par quelqu'un d'autre que Reagan, Hornsey et Rees.
Le 13 février 2003, le jour de ce rendez-vous, Anil Chauhan, 46 ans, disparaît. Sa disparition est immédiatement remarquée par sa femme dévouée, Nancy, qui s'inquiète de ne pas le voir revenir à la maison.
Nancy devait sans aucun doute être bouleversée. Elle était inquiète qu'il ne rentre pas chez eux, et quand il a fini par l'appeler, il lui a parlé en anglais, et ça l'a inquiétée.
Anil Chauhan a laissé un message vocal à Nancy pour dissiper ses craintes, lui dire qu'il ne lui était rien arrivé. Anil lui a expliqué qu'il fuyait les autorités. Mais il lui a laissé ce message en anglais et Nancy a immédiatement compris qu'il ne l'aurait pas fait de lui-même, qu'il lui aurait parlé en Punjabi. Même si elle savait que c'était bien Anil qui lui parlait, elle s'est aussitôt inquiétée pour lui.
Deux jours plus tard, le 15 février, Nancy, sa mère et ses deux jeunes fils disparaissent à leur tour.
Elle parlait tous les jours à son frère en Nouvelle-Zélande, Ankar. Et ses appels ont cessé juste après la Saint-Valentin.
Nancy était très proche de son frère qui vit en Nouvelle-Zélande. Ils se parlent presque tous les jours au téléphone. Alors quand Nancy cesse de l'appeler, il trouve ça très suspect.
Après les disparitions, Kenneth Reagan prend le contrôle de Siba.
Reagan arrive à Siba Freight. Il brandit une procuration et déclare « C'est ma société, j'en ai pris le contrôle. Chauhan a mis les bouts, il a disparu avec toute sa famille. Qui sait où ils sont allés? C'est moi qui commande désormais. »
Affirmant qu'il est désormais le propriétaire légal, Reagan convainc les employés de Siba que tout va bien avec l'aide de Hornsey.
On a dit aux employés de Siba Freight, Anil Chauhan avait cédé la société à Kenneth Reagan.
Ils se sont dit, bon, c'est le chef maintenant, on reprend. À ce stade, personne n'avait signalé la disparition des Chauhan, car personne ne les pensait encore disparus, et personne ne soupçonnait qu'un crime avait été commis. Cependant, les Chauhan étaient introuvables.
Mais une personne refuse de croire que la famille a tout simplement disparu. Ankar, le frère de Nancy.
Aucun crime n'avait été signalé, jusqu'à ce que le frère de Nancy prenne l'avion pour le Royaume-Uni depuis la Nouvelle-Zélande. convaincu que sa sœur ne disparaîtrait pas comme ça, qu'il devait lui être arrivé quelque chose. Il était convaincu que sa sœur ne s'enfuirait pas sans rien lui dire, qu'elle ne disparaîtrait pas.
Devant l'inquiétude grandissante de Ankar, une enquête est ouverte pour disparition le 19 février.
L'enquête initiale est une enquête normale sur des personnes disparues. On a signalé à la police que des gens avaient disparu. Il n'y a pas de circonstances suspectes à ce stade. Des personnes ont disparu, c'est tout.
Dans le cadre de l'enquête pour disparition, la police fouille la maison familiale à Onslow et fait une découverte troublante.
Il y avait du linge mouillé dans la machine à laver, ce qui est vraiment anormal. Même s'il n'y avait aucun problème en apparence, la police a l'impression que le départ de la famille a été rapide. Une mère et une grand-mère de jeunes enfants n'auraient pas laissé du linge mouillé dans la machine à laver.
Et la plus importante découverte, c'était que Mme Corr était une femme très croyante et qu'elle avait laissé sa version des textes sacrés sur place, ce qu'elle n'aurait certainement jamais fait.
Les circonstances inhabituelles entourant la disparition de la famille Chohan éveillent chez le commandant Andy Baker le sentiment que quelque chose de funeste a pu se produire.
J'ai décidé avec une équipe locale que cette affaire devait faire l'objet d'une enquête approfondie. Le responsable de l'enquête a été nommé le 21 février, soit quelques jours après que leur disparition ait été signalée.
Une sonnette d'alarme ayant été déclenchée, la police commence à s'intéresser de plus près à Sibafret et aux personnes qui contrôlent désormais l'entreprise. Howard Pickard est l'un des inspecteurs appelés à participer à l'enquête.
On a reçu des informations de Reagan lui-même. Il s'est manifesté pour nous dire qu'il reprenait effectivement l'entreprise. Il avait divers documents prétendument signés par Anil Chohan, attestant de la cession et prouvant que tout était en ordre.
Il ne faut pas longtemps à la police pour se rendre compte que tout n'est pas en ordre à Sibafret.
Trois personnes étaient impliquées dans la reprise de Siba. C'était la principale piste de l'enquête. Il y avait Kenneth Reagan, une femme appelée Belinda Bruin, et une troisième personne que nous appellerons Mike. On a découvert que Belinda Bruin et Kenneth Reagan s'étaient rencontrés quelque temps auparavant au cinquième étage de Harvey Nichols, un bar bien connu dans le centre de Londres.
La mondaine Belinda Bruin a rencontré Reagan en 1997, avant qu'il ne soit condamné pour trafic de drogue. Elle a d'abord été intriguée par le style de vie fastueux de Reagan.
C'était une personnalité extraordinairement différente de celle de Reagan. Belinda Bruin est chargée de relations publiques. C'est une fille de Chelsea, avec beaucoup de relations, ce qui lui confère une certaine position dans le monde plus glamour du West End.
Dans le cadre de la reprise de Siba, Reagan dupe Belinda pour qu'elle l'aide à diriger la société. Elle est loin de se douter qu'elle doit être l'image honorable de l'entreprise.
Elle était la petite fille d'un père travailliste millionnaire et elle vivait dans une immense propriété de 20 hectares, près de Tiverton, dans le Devon.
La police commence à enquêter sur les différentes personnes qui gèrent Sibafret.
Kenneth Reagan a été très habile. Il a créé un tissu de mensonges pour dissimuler ce qu'il s'était passé et comment ça s'était passé. Il a réussi à faire croire qu'Anil Chohan s'était enfui à cause de problèmes fiscaux, qu'il avait quitté le pays et qu'il avait laissé l'entreprise entre ses mains.
Malgré l'intérêt que lui portent les policiers, Kenneth Reagan, 54 ans, garde son sang-froid et son calme tout au long de l'enquête.
Pendant les interrogatoires, il était très serviable. Il a essayé de donner à la police autant d'informations que possible, mais ce qu'il a déclaré était en fait de fausses informations qui visaient uniquement à détourner l'attention de lui. Et ça a marché au début. Ses mensonges étaient très intelligents, et ils étaient étayés par des preuves écrites.
Mais l'histoire de Reagan et Hansi ne va pas tarder à être mise à mal.
En parallèle, on a évidemment fait quelques enquêtes en secret. On a vérifié leur téléphone, la date de leur dernière communication, les messages qu'ils contenaient, leur contenu, et on a constaté que les téléphones avaient été utilisés quelque part autour de Salisbury. Puis, on a fait des rapprochements avec d'autres personnes qui nous semblaient un peu trop proches. Ça nous a amené à faire d'autres vérifications qui nous ont conduites à Tiverton.
Tiverton, dans le Devon, et la ville où se trouve la propriété de Belinda Brewing. Le 19 février 2003, les téléphones de Kenneth Regan, William Hornsey et Peter Rees se trouvent tous dans cette ville idyllique de la campagne anglaise.
On a évidemment fait des recherches pour savoir pourquoi ils étaient là. Et pendant ces recherches, on a découvert qu'ils avaient prétendument creusé un fossé d'écoulement dans les champs où Belinda Brewing gardait ses chevaux. Belinda Brewing n'était pas au courant. Elle a dit que c'était un cadeau surprise de la part de Regan, qu'il avait creusé un fossé pour améliorer l'évacuation et qu'elle ne lui avait jamais demandé de le faire. Donc la police a décidé d'aller dans la cour de la ferme à Tiverton.
Le responsable de l'enquête m'a dit qu'il aimerait faire venir une pelleteuse pour creuser un fossé, et je n'ai pas hésité à lui donner mon accord.
Peu avant que la police ne commence à creuser, une nouvelle piste urgente apparaît.
Regan et Hornsey ont dit à la police qu'ils retrouvaient Anil Chauhan à Newport pendant le week-end de Pâques. Ils devaient lui remettre des passeports pour qu'il puisse quitter le pays.
Le rendez-vous doit avoir lieu à côté de la statue du cochon de bronze à Newport.
On a évidemment surveillé ce rendez-vous. Et je suis certain que Regan ou Hornsey nous surveillaient au même moment.
Donc l'enquête de la police à Tiverton a été retardée pendant que les enquêteurs se rendaient à Newport pour retrouver Anil Chauhan, là où il devait aller, d'après Regan.
Anil ne se présente jamais au rendez-vous et personne n'aperçoit plus Anil ou la famille Chauhan après ça. En avril 2003, la police commence enfin l'excavation du fossé d'écoulement à Tiverton.
Une information a conduit la police jusqu'à ce terrain à Studley, près de Tiverton, dans le Devon. Après 5 jours de fouilles, la police a trouvé des preuves qu'un ou plusieurs corps ont été enterrés ici, puis déplacés.
Ils y sont restés une bonne semaine par un temps épouvantable, très humide et pluvieux. Ils ont déplacé et essayé de tamiser des tonnes et des tonnes de terre à la recherche de toutes sortes de preuves. Ils ont découvert près de 90 pièces à conviction, dont des bijoux, des cheveux, des gants en plastique, des cordes, etc. Beaucoup de ces objets avaient été brûlés, mais les cheveux étaient évidemment très importants et la police médico-légale les a analysés.
Les sites funéraires sont en fait très distinctifs. La façon dont le sol est creusé, la façon dont il est perturbé, même lorsqu'on le comble, est toujours apparente. S'ils sont fouillés correctement, il est même possible d'identifier le type d'outil utilisé pour creuser le sol, comme une bêche ou une sorte de pelleteuse.
La police est convaincue qu'il s'agit d'un lieu de sépulture. Mais où sont les corps ? 2 mois plus tard, le 22 avril, 2 canoïstes font une terrible découverte.
Ils ont trouvé le corps près de la jetée. L'un d'eux est resté avec le corps pour s'assurer qu'il ne soit pas emporté ou qu'il ne coule pas. L'autre est allé appeler la police. On a constaté qu'il y avait des marques de ligature sur les poignets, qu'il était vêtu, mais aussi bâillonné. Donc les circonstances étaient très suspectes.
Si quelqu'un est mort depuis un certain temps avant d'être mis à l'eau, il n'y a probablement plus d'air dans le corps. Le cadavre ne refait alors surface qu'à partir du moment où la décomposition a atteint le stade où le corps devient gazeux et gonfle.
Howard Pickard, le responsable de la scène de crime, se souvient d'avoir été envoyé sur la côte sud.
Je suis allé à Bournemouth avec le responsable de l'enquête. On a parlé à la police du Dorset. Quelques jours plus tard, on a procédé à une autopsie spéciale qui nous a permis d'identifier M. Chauhan. On savait alors que c'était désormais une enquête pour meurtre, donc on a enclenché la procédure.
La police scientifique a découvert que le corps d'Anil n'était resté que 2 jours dans l'eau avant d'être retrouvé. Alors que sa famille et lui était porté disparu depuis plus de 2 mois.
Quand son corps a été retrouvé dans la mer, ça faisait des mois qu'il avait été assassiné. Son visage était encore couvert de rubans adhésifs et il y avait de petits trous dans le nez pour qu'il puisse respirer.
Lors de l'autopsie qui a été effectuée par le médecin légiste du ministère de l'Intérieur à Boscombe, on est arrivé à la conclusion qu'il était mort d'asphyxie.
L'autopsie a montré que le corps présentait des traces de drogue dans le sang, de GHB, et qu'il y avait une blessure à la tête qui aurait pu causer la mort.
L'examen médico-légal révèle qu'Anil Chauhan, 46 ans, a été battu, drogué et asphyxié. Soudain, le nouveau propriétaire de Siba Freight, Kenneth Reagan, 50 ans, et ses associés apparaissent plus suspects que jamais.
En parallèle, on faisait des recherches en secret. On faisait un travail technique d'identification des empreintes de pas des personnes clés, des victimes et des criminels.
Les mouvements de Reagan, Arnsey et Rhys au cours des jours qui ont suivi l'enlèvement d'Anil ont été assez complexes et très, très difficiles à reconstituer. D'un point de vue médico-légal, il y a eu énormément de travail dans différents domaines, sur différents véhicules et sur des images de vidéosurveillance.
Les relevés téléphoniques conduisent la police à penser qu'Anil a été détenu à Forge Close pendant plusieurs jours.
Quand Anil Chauhan a été capturé, il a été fait prisonnier et emmené dans la maison du père de Reagan. On sait qu'il a été détenu dans cette maison pendant un certain temps. Je pense qu'on a dit à Peter Rhys ce qu'il devait faire et quand le faire. Au départ, il était chez le père de Reagan et surveillait Anil Chauhan pendant que les deux autres, Reagan et Arnsey, sont allés à Londres.
Reagan, Arnsey et Rhys étant introuvables, les enquêteurs de la police scientifique se rendent dans la petite maison à la recherche d'indices.
Quand on est arrivé pour la première fois à Forge Close, c'était complètement verrouillé. On est entré pour évaluer la situation et on a pu constater que certains murs avaient été repeints. Il y avait une odeur de peinture fraîche et il semblait y avoir de la moquette neuve dans plusieurs pièces.
Il n'y avait pas de preuves à l'intérieur. Mais on a découvert une tache de sang de l'un des enfants, de Vinder, à l'extérieur de la maison. Donc ça nous a permis de situer avec certitude l'un des enfants à cette adresse.
On sait non seulement d'après les informations reçues, mais aussi d'après les relevés téléphoniques, que Reagan et Arnsey, qui se trouvaient à Forge Close, à Salisbury, se sont également rendus à Hounslow, dans la maison où se trouvaient Nancy, la mère et les deux enfants.
Un tableau horrible commence à se dessiner à propos des derniers faits et gestes de la famille.
Ils ont dû prendre la famille en otage pour s'en servir comme moyen de pression. Je ne sais pas comment se sont déroulés les événements. Je ne sais pas qui a été tué en premier et qui en dernier. Il aura certainement fallu tuer toute la famille à un moment pour pouvoir faire croire qu'Anil avait quitté le pays et leur avait laissé l'entreprise. Parce qu'Anil n'aurait jamais pu laisser Nancy sans rien en cédant l'entreprise.
Le froid et impitoyable Reagan, ainsi que ses complices Arnsey et Rhys, sont prêts à tout pour prendre le contrôle de la société Siba, qui pèse plusieurs millions de livres.
Qu'ils aient été ou non assassinés sous les yeux d'Anil, il aurait quand même été sous pression. Je suis convaincu que Reagan lui a joyeusement dit que sa femme et ses enfants étaient en danger. Ça ne fait aucun doute. C'était un pan de la torture et de la pression imposée à Anil pour qu'il cède son entreprise.
Pendant que Reagan détenait Anil Chauhan dans la maison de son père, il l'a forcé ou contraint à apposer sa signature sur des pages blanches et à signer des lettres disant en gros qu'il lui cédait l'entreprise.
Ils l'ont soumis à une pression extrême. Il a subi la pire forme de torture qui soit. Ils l'ont en gros forcé à signer une fausse procuration, cédant tout ce qu'il possédait à Reagan.
La police continue de suivre les mouvements des trois suspects grâce à leur communication téléphonique. C'est alors qu'elle fait une découverte déchirante.
C'est ce week-end-là, le week-end férié, que Reagan, Arnsey et Rhys ont déterré les corps, les ont emmenés dans le Solent et les ont jetés à la mer.
Alors que la police suit une fausse piste à la recherche d'Anil Chauhan en avril 2003, Reagan, Arnsey et Rhys sont à Tiverton en train d'exhumer les corps de la famille Chauhan. À cause de la ruse de Reagan, la police manque la découverte de quelques jours.
Reagan, Arnsey et Rhys ont loué une camionnette et un bateau pour transporter les corps jusqu'à la mer. On a pu obtenir des images de vidéosurveillance montrant qu'ils avaient loué un véhicule et qu'ils ont roulé de Tiverton jusqu'à la côte sud. Donc, on a pu suivre leurs traces à la fois grâce aux relevés téléphoniques et à leurs déplacements sur les vidéosurveillances.
Les enquêteurs sont plus déterminés que jamais à arrêter les tueurs. Ils contactent les sociétés propriétaires des camionnettes.
Quand on a saisi ces camionnettes pour les traiter comme une scène de crime, elles avaient déjà été louées à de nombreuses reprises. Donc les chances d'obtenir quoi que ce soit de ces camionnettes étaient faibles. Mais on a minutieusement démantelé les camionnettes et on a trouvé du sang et des cheveux, identifiés comme appartenant à Anil Chauhan, dans l'une des deux camionnettes ainsi que sur l'un des bateaux qu'on a récupérés. En reliant tout ça aux preuves obtenues avec les relevés téléphoniques, qui placent les suspects aux différentes adresses au bon moment, ça a vraiment permis de résoudre l'affaire.
Le 30 avril 2003, alors que l'étau de la police commence à se resserrer autour de Reagan et Hornsey, les deux hommes fuient.
Reagan et Hornsey ont compris qu'après avoir jeté les corps en mer, c'en était fini pour eux. Donc, ils ont fui le pays.
Ils savaient qu'ils étaient recherchés. Et même si fuir le pays n'est pas une preuve de culpabilité, on ne quitte pas un pays sans raison, d'autant plus sans communiquer avec qui que ce soit.
On savait que Reagan et Hornsey avaient pris un ferry pour le continent. Mais on ne sait pas où ils sont allés après.
Contrairement à ces deux criminels endurcis, Rhys ne quitte pas le pays. La police le retrouve le 14 mai 2003.
Rhys a été le premier à être arrêté. Il a nié. Il a juste dit qu'il avait aidé Reagan. Il nous a tout raconté, mais en disant juste assez pour plaider l'innocence.
Rhys a été une espèce de petit soldat, en fait, dans cette affaire. Je pense qu'il a été vraiment attiré par la proposition de Reagan et Hornsey, parce qu'il se retrouvait mêlé à des gangsters londoniens passionnants. C'était l'occasion pour lui d'être quelqu'un. Je pense qu'il trouvait ça grisant.
Deux mois après l'arrestation de Rhys, alors que Reagan et Hornsey se cachent toujours en Europe, un bateau pêchant dans la baie de Poole, dans le Dorset, fait une atroce découverte.
Un bateau de pêche a remonté un paquet des fonds marins. Ne sachant pas ce que c'était, les marins l'ont apporté à terre. Il a été apporté à la morgue et des analyses ADN ont prouvé qu'il s'agissait en fait de Nancy Chauhan. Elle a été enterrée pendant 2 mois, puis immergée dans la mer pendant 3 mois. Donc son corps était dans un état de décomposition très avancé. Mais dans son cas, il était tout de même évident qu'elle a été frappée à la tête avec un marteau.
La police sait qu'elle a affaire à deux individus extrêmement violents. Retrouver Reagan et Hornsey est désormais une priorité absolue.
Rhys avait en fait trouvé un appartement pour eux deux en Espagne. On a travaillé avec les services de police internationaux, en particulier en Espagne, afin de déterminer où ils se trouvaient.
Reagan a été arrêté à Gand, en Belgique, en août 2003, dans un état pitoyable, apparemment sans argent, sans moyens de subsistance. Il a été extradé vers le Royaume-Uni et, un mois plus tard, Hornsey s'est rendu à la police, ayant manifestement passé assez de temps en cavale.
La police disposait d'un grand nombre de preuves et était convaincue qu'ils tenaient leur coupable. Mais il leur manquait encore le corps des deux jeunes enfants du couple, âgés d'à peine quelques mois.
Outre les deux enfants, la police n'a toujours pas retrouvé le corps de Madame Corr, la mère de Nancy. Malgré tout, près d'un an après la découverte du corps d'Anil, les trois hommes sont inculpés de meurtre. L'inspecteur Howard Pickard rassemble toutes les preuves lorsqu'il fait une avancée majeure grâce à un élément de preuve improbable. Les chaussettes d'Anil Chauhan.
On avait ses chaussettes. La police du Dorset les avait mises dans un sac. J'ai proposé de les faire analyser. Donc les chaussettes ont été dûment soumises à la police scientifique. Je pense qu'une semaine plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait ouvert les chaussettes et qu'à l'intérieur, elle avait trouvé un morceau de papier plié en tout petit. Et vu qu'il avait été beaucoup plié, on pouvait encore déchiffrer les coordonnées d'une société de crédit immobilier au nom de Reagan, à Forge Close, dans le Wiltshire.
Cette preuve, extraordinairement accablante, est le coup de grâce pour Kenneth Reagan, William Hornsey et leur associé, Peter Rhys.
La lettre de la société de crédit immobilier serait arrivée le jour où Anil s'est rendu à Stonehenge et a été kidnappé, a été pris en otage. On pense donc qu'Anil est tombé sur ce bout de papier lorsqu'il était à Forge Close, qu'il l'a plié et qu'il l'a mis dans sa chaussette en pensant qu'il avait été kidnappé et qu'on allait lui faire du mal.
Le seul fait d'avoir mis cette lettre dans sa chaussette montre qu'il pensait que quelque chose pourrait mal tourner.
Il voulait en faire un indice pour élucider son propre meurtre. Donc on sait qu'il a compris ce qu'il allait lui arriver. Et en plus de ça, il a fait en sorte d'aider la police à attraper son meurtrier avant même qu'il ne soit tué.
Dans une tentative désespérée de clamer son innocence, Regan prétend que la lettre a été placée par la police pour le piéger.
Et bien sûr, quand on a transmis cette preuve à la défense, sans surprise, ils ont crié au complot. La lettre aurait soi-disant été placée dans la chaussette par la police du Dorset, par la Metropolitan Police ou la police scientifique. Et c'était évidemment le principal sujet de discorde. Tout le monde était accusé d'avoir comploté pour placer cette preuve dans la chaussette.
Le 15 novembre 2003, la police fait une nouvelle découverte effroyable.
Le corps de la mère de Nancy, Madame Carr, a été retrouvé échoué sur l'île de Wight en novembre dans un état de décomposition très très avancé. Au fur et à mesure que le corps se décompose et que les ligaments et les muscles se désagrègent, le corps se fragmente. S'il est soumis à une marée ou s'il est dans des eaux en mouvement, il se sépare. Donc, je pense que ce sont le simple processus de décomposition et l'eau qui ont conduit à la séparation du corps.
La seule partie de son corps retrouvée est son crâne. Les deux enfants n'ont jamais été retrouvés.
Je pense que ce qui rend cette affaire exceptionnelle, c'est la façon très froide et détachée dont ces victimes ont été tuées et éliminées. Ils ont eu de nombreuses occasions de décider de ne pas tuer les autres membres de la famille. Mais ils ont littéralement suivi leur plan du début à la fin.
La seule trace potentielle des enfants a été lorsque Nancy Chauhan a été remontée du fond de la mer. Quand le filet a été hissé à bord et qu'elle est restée dedans, les pêcheurs ont remarqué un autre paquet qui est tombé du filet. On suppose qu'il s'agissait des garçons. Mais c'est la seule trace potentielle qu'on ait d'eux à ce jour.
C'est digne de la mafia. C'est vraiment digne de ce genre de brutalité grotesque. Ils les ont envoyés dormir avec les poissons. On est littéralement dans le monde du parrain. C'est un comportement extraordinairement dépravé.
Le procès de Regan, Hornsey et Rhys commence le 8 novembre 2004. Ankar, le frère de Nancy, fait le voyage depuis la Nouvelle-Zélande pour y assister.
Le procès s'est déroulé à Lloyd Bailey. Tous les yeux étaient tournés vers ce procès. Un procès portant sur le meurtre d'une famille entière, dont deux tout petits-enfants. Ça a fait beaucoup de bruit. La sauvagerie et la brutalité de ces crimes, commis par des criminels endurcis et insensibles, ont fait la une des journaux.
Les trois accusés plaident non coupables et tissent une toile de mensonges pour prouver leur innocence.
Une fois les pièces du puzzle assemblées, l'épreuve était accablante. Mais même pendant le procès, Regan a présenté une défense surprise. Il a déclaré qu'un gang asiatique dirigé par un certain Nav s'était occupé d'Anil Chauhan. Ce seraient eux qui auraient tué Anil et qui l'auraient forcé à se débarrasser du corps.
Tout au long du procès, Regan soutient que la lettre trouvée dans la chaussette d'Anil Chauhan a été placée là par la police.
J'ai témoigné à la fin du procès, et je pense qu'il est juste de dire que la défense m'a donné du fil à retordre. Elle a suggéré que la preuve de la chaussette était le fruit d'un complot entre la police du Devon, la police des Cornouailles, la police du Dorset, la Metropolitan Police, la police scientifique, le procureur, et qu'on était tous dans le coup. C'est complètement absurde.
Au fur et à mesure que le procès se poursuit, les dissensions apparaissent entre Regan, Hornsey et Rhys.
Regan et Hornsey donnaient l'impression d'avoir déjà connu tout ça. Le procureur doit prouver ceci. On n'a rien à prouver. On a déjà traversé ça. Vous ne nous apprenez rien de nouveau. Rhys, lui, avait certes déjà fini devant les tribunaux à de nombreuses reprises, mais jamais pour un crime d'une telle gravité. Il était effrayé. Il faisait de son mieux pour essayer de mettre de la distance entre lui et les deux commanditaires des crimes, plus âgés et endurcis.
Le 1er juillet 2005, les trois hommes sont reconnus coupables de meurtre.
Reagan et Hansi ont été reconnus coupables des cinq meurtres et ont été condamnés à la perpétuité incompressible, donc ils ne sortiront jamais de prison. Rhys n'a été condamné que pour le meurtre d'Anil Chauhan, parce qu'on avait la preuve qu'il l'a détenu à Forge Close.
Ils sont condamnés à la perpétuité réelle. C'est la première fois dans ma carrière que deux condamnations à perpétuité réelle sont prononcées au cours d'un même procès. C'est très rare. À peine 50 à 60 personnes purgent actuellement une peine de perpétuité réelle au Royaume-Uni. Le meurtre brutal et totalement inutile d'enfants et de femmes parfaitement innocents, ainsi que la torture d'Anil, sont proprement ignobles. Il n'y a absolument rien qui puisse les pardonner. Et il est tout à fait approprié que Reagan et Hansi soient condamnés à la perpétuité réelle.
Peter Rhys est reconnu coupable du meurtre d'Anil Chauhan et condamné à la prison à perpétuité, avec un minimum de 23 ans derrière les barreaux. Il est acquitté des quatre autres meurtres.
C'est à ce moment-là que Peter Rhys a pris conscience de ce que ça représentait pour lui. Il s'est tourné vers la droite, vers Hansi en particulier, la personne en qui il pensait pouvoir avoir confiance, et a eu l'air de dire « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Ça a été un choc extraordinaire, on le lisait sur ses traits. « Vous allez finir votre vie au trou, et moi, je vais recevoir une peine presque aussi lourde. Que m'avez-vous fait ?» Ce moment où il s'est rendu compte qu'il allait désormais vivre en prison a été extraordinaire. Mais on a tous le choix dans la vie. Et quand on regarde un homme se faire torturer pendant 3 jours, puis tuer, il faut en assumer les conséquences.
Malgré leur arrogance et leurs mensonges incessants, Kenneth Reagan, William Hansi et Peter Rhys sont tous jugés et condamnés.
Richard Hallwell était le procureur. Il a dit aux jurés des mots qui resteront gravés dans la mémoire de tous ceux qui les ont entendus, parce qu'ils étaient très justes. Il leur a dit qu'il s'agissait d'une affaire dont l'horreur dépassait l'entendement. Ces quelques mots résument parfaitement l'affaire.
Au fil des années, j'ai traité de nombreuses affaires d'homicide, des centaines de scènes de meurtre en fait. Et il y en a probablement 5 ou 6 qui me reviennent à l'esprit presque tout le temps. Et celle-ci en fait partie. Il me semble que même l'avocat de la défense a dit qu'il fallait être fou pour tuer toute une famille dans le seul but de prendre le contrôle d'une entreprise. Eh bien, ils sont vraiment fous. Il a regretté ses mots par la suite. Ils sont tout simplement méprisables et ont commis un crime épouvantable contre 5 personnes innocentes.
Kenneth Reagan, criminel chevronné, est un menteur habile et un tueur impitoyable. Avec son complice William Hansi, il a méthodiquement planifié l'assassinat de sang-froid de la famille Chauhan dans le seul but d'en tirer un profit financier. Craignant que la police ne les surprenne, Reagan, Hansi et leur associé Rhys ont exhumé les corps de leur tombe à Tiverton et les ont jetés à la mer. Les corps des deux enfants n'ont jamais été retrouvés. Reagan et Hansi n'ont montré aucun remords pour leurs crimes, ce qui en fait à jamais deux des pires criminels au monde.